Donc, bonjour ce matin, encore une fois, et ce matin, nous poursuivons notre voyage dans l'Épître aux Galates. Galates 3, les versets 19 à 26, et le titre, c'est la prédication, c'est « Pourquoi la loi de Moïse? » Donc, nous allons lire les passages dans Galates 3, 19 à 26. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certes, non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Alors, prions. Père, nous voulons regarder à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es le Dieu de vérité, c'est toi qui es la parole, Seigneur, et c'est toi qui as donné cette parole, Seigneur, afin que nous puissions mener une vie qui te plaise, qui te soit agréable, Seigneur. Nous te prions ce matin de bénir cette parole dans notre cœur, de nous aider, de nous accorder, Seigneur, l'onction de l'Esprit-Saint. À moi, premièrement, pour bien transmettre ta parole, Seigneur, et à ceux qui vont entendre, Seigneur, afin qu'ils puissent la recevoir, Seigneur, et qu'elle puisse porter du fruit dans leur vie. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avez-vous déjà été au volant d'une auto et de ne pas savoir où vous allez? Mais la personne à côté de vous dit qu'elle le sait où aller. À tout le moins, quelqu'un dans l'auto dit « je le sais ». Ainsi, lorsque vous arrivez à une intersection, vous posez la question « quel côté? De quel côté je dois aller? » Et c'est la question que plusieurs personnes se demandent aujourd'hui au sujet de la religion, au sujet du ciel ou au sujet de Dieu. Quel côté? Est-ce que nous pouvons être certains? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment aller au ciel? Vous êtes-vous déjà demandé la question? Vous le devriez si vous ne l'avez pas fait. Donc, quelle est la réponse? Comment aller à Dieu? Eh bien, si vous écoutez à ce que la plupart des gens disent aujourd'hui, il y a plusieurs chemins pour aller vers Dieu. Nous entendons une cacophonie de voix hurlant à nos oreilles. C'est comme être au volant d'une auto avec plusieurs personnes à l'intérieur. Et il y a toutes sortes de voix vous disant où aller et comment atteindre la destination. Certains disent « tournez ici », d'autres disent « non, c'est là », et d'autres encore « non, c'est de l'autre côté ». Et si vous êtes sur le siège du conducteur, vous êtes certainement confus. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Par quel chemin dois-je aller? De nos jours, de plus en plus de gens sont confus ou pas certains sur le chemin d'aller au ciel. Nous vivons dans une culture qui se targue, qui se pète les bretelles du pluralisme religieux. Il y a plusieurs chemins vers Dieu. Allah, Bouddha, l'hindouisme, et dans l'hindouisme, il y a quelque 33 millions de petits dieux. Par où aller? Eh bien, cette question est répondue très clairement dans nos Bibles. Si vous prenez l'Épître aux Galates, vous entendez cette réponse par les haut-parleurs. Il n'y a qu'un seul chemin pour le ciel, vers Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen de justification. Et quel est ce moyen? Eh bien, c'est le moyen de la foi. C'est le moyen de la grâce. C'est le moyen par Christ seul. Et la raison pourquoi ce seul moyen évangélique est mis de l'avant dans cette lettre aux Galates est en raison du fait qu'il y a des gens qui étaient enseignés qu'il y avait un autre moyen de salut. Ils étaient enseignés que pour aller au ciel, ils devaient y ajouter des œuvres à la foi. Galates 1:6, Paul fait allusion à un autre évangile, un évangile différent. Et pour démontrer que cette justification est par la foi et non par les œuvres, par la loi, Paul va présenter une antithèse qui est aiguisée entre la foi et la loi. Et on peut noter dans Galates 2:16, il fait état de trois négatifs. Et nous y lisons, « Sachez que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non pas les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Il prêche qu'il n'y a qu'un seul évangile. C'est un évangile par la foi seule. Et lorsqu'il prêche ce seul évangile, il prend son marteau, pour ainsi dire, et frappe la loi encore, encore et encore. Paul décrit sa propre expérience en Galates 2, 19. Comme celui qui est mort à la loi par la loi. Ce n'est pas en gardant la loi ou par des performances humaines. Toute cette lettre en est une écrite qui poursuit les Galates pour contrer les pressions des judaïsants qui insistent que vous devez être circoncis. Vous devez garder la loi pour être sauvé. C'est pourquoi il commence le chapitre 3 avec des mots qui sont percutants. Au verset 1, « Ô Galates insensés », ajoutant que peu importe la loi, le rituel ou la loi cérémonielle, c'est à l'encontre de l'évangile de grâce de Jésus-Christ. Comme il a été dit, Paul pulvérise la loi. Il continue au chapitre 3 pour nous démontrer l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, pour nous démontrer qu'elle a supériorité sur l'alliance de la loi faite avec Moïse, au verset 15 à 18. Mais globalement, si vous lisez les chapitres 2 et 3 de Galates, il y a beaucoup de négatifs à l'égard de la loi. Il y démontre son infériorité, son inhabilité, son impotence. Ainsi, cela amène à soulever la question. Pourquoi la loi? Paul semble l'avoir mise au rebut. Peut-être ses critiques, les judaïsants, même disent « Paul prêche cet évangile de grâce par la foi seule, par la grâce seule, par Christ seul. Il n'a laissé aucune place pour Moïse. » Il parle d'Abraham et de la promesse. Mais qu'en est-il de Moïse? Paul s'est dépeint lui-même comme un coroner théologien. Et un coroner, ça dissecte, tu sais, ça sépare les choses pour arriver à une vérité. Il apparaît, n'est-ce pas, du fait qu'il a totalement rejeté la loi. Si tout dépend de la grâce et la promesse, et non pas des œuvres de la loi, mais pourquoi donc Dieu nous a-t-il donné la loi? Il est intéressant, dans Actes 21, il y a des Juifs, en fait, de dire que ce Paul, cet homme, enseigne aux hommes partout contre nos gens et contre notre loi. Il semble que Paul est contre la loi. Paul n'est pas le juif typique se targuant, souriant à la loi. Il apparaît être en opposition, y fronçant les sourcils ici dans Galates 2, 3, dans l'Épître aux Galates, les chapitres 2 et 3. Ainsi, la question « Pourquoi la loi ?» devient très pertinente et à propos à la lumière de tout ce que Paul a dit jusqu'ici concernant la loi. Paul n'était pas ce genre d'homme à se dégonfler devant une problématique ou ses critiques. Paul maintenant s'attaque particulièrement à cette question. Pourquoi la loi? Au verset 19. À quel propos? Pour quel dessein? Pour quel but donc la loi sert-elle? Et il va répondre à cette question dans les versets 19 à 25. Donc, nous allons examiner ces quatre, sous quatre images graphiques simples, pourquoi Paul a dit que nous avons besoin de la loi? Pourquoi la loi a-t-elle été donnée à Israël dans l'Ancien Testament? Pour comprendre pourquoi la loi, vous devez comprendre, premièrement, une loupe. Ce qu'est une loupe. Vous devrez comprendre une épée meurtrière ou un cimetière. Une prison ou un directeur de prison. Un enseignant sévère ou une gardienne d'enfants sévère. Alors, ce sont nos quatre points. Le premier, c'est une loupe. Le passage que nous avons devant nous, les versets 19 et suivants, ont posé un dilemme à plusieurs commentateurs. Paul ici condense en quelques paragraphes quelques 3000 ans d'histoire des Juifs. Selon un commentateur, il mentionne qu'il y a au moins 250 interprétations différentes d'un de ces versets et 450 par un autre. Ainsi, ce que nous avons est une liste sans fin de labyrinthes d'arguments. Il y a beaucoup de choses liées ensemble dans ces passages. Nous avons la christologie, l'eschatologie, qui est la doctrine de la fin des temps, la théologie de l'Alliance, la loi, l'Évangile, le péché, la promesse, et il y a même question des anges. Et il serait très, très facile de prendre la piste rapide et de perdre de vue ce avec quoi il fait affaire ici. Et l'avenue principale concerne la loi. Et c'est la question qu'il soulève, n'est-ce pas, au verset 19. Et Paul veut démontrer le but, l'intention de la loi, non pas en termes de salut personnel individuel, mais en termes de l'histoire de la rédemption. Pourquoi Dieu a-t-il donné sa loi à Israël de l'Ancien Testament, à Moïse, après qu'il eut donné la promesse à Abraham? Faisons une préparation importante au tout début, avant que nous nous trempions les pieds. Ce discours de la loi de Galates 3 ne représente pas tout ce que Paul a à dire concernant la loi. En tournant dans les chapitres 5 et 6, il est clair que la loi est pour le croyant en termes de comment vivre une vie qui plaise à Dieu. Jean Calvin donne ce sage commentaire et avertissement concernant ces passages dans Galates 3, 19 à 25. Et je cite, « La loi a plusieurs usages, mais Paul se limite à un qui sert son objectif présent. Mais cette définition de l'usage de la loi n'est pas complète et ceux qui ne reconnaissent rien d'autre sont dans l'erreur. » Pourquoi la loi? Eh bien, la première chose que Paul nous dit est que la loi agit comme une loupe. Donc, il faut savoir ce qu'est une loupe. Qu'est-ce que c'est qu'une loupe? C'est très simple. C'est un miroir qui a une application bien précise. Elle augmente la dimension de quelque chose. Elle permet de voir quelque chose beaucoup plus clairement, plus nettement. Un exemple. un insecte, petit insecte, c'est pas toujours facile à voir, à déceler. Comme un maringouin, par exemple. C'est un bel insecte de l'Abitibi, le maringouin. Qui, lorsque vous vous couchez, bourdonne, vous entendez ci, là, cela. Et moi, s'il y a quelque chose qui me tue, c'est bien, je ne suis pas capable de dormir. Si tu entends bzz, le maringouin, il faut que je lève la lumière, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, vous ne savez pas où il est, mais vous savez qu'il est là. Il atterrit en douceur sur votre fond et vous essayez de l'attraper, de le taper. Et finalement, en vain. Lorsque vous réussissez et que vous le regardez sous une loupe, si vous faites cela, sous un microscope, vous y voyez tous les détails amplifiés de son anatomie. Et vous voyez ses grandes pattes, son dard et ses yeux exorbitants. Et ça va probablement augmenter votre anxiété lorsque vous allez l'entendre bourdonner là, dans le cilé. Ça va certainement vous... Mais la loupe fonctionne de cette façon-là. Et la loi de Dieu agit ainsi. Elle agit, fonctionne comme une loupe. Regardons encore le verset 19. Quel est le but de la loi? À quoi la loi sert-elle? Il dit premièrement qu'elle a été donnée à cause de transgression. Elle a le but d'amener le péché à la lumière. Comme le maringouin sous la loupe. Nous y voyons la laideur du péché sous la loupe de la loi de Dieu. Et il n'y a rien de plus laid que le péché, n'est-ce pas? Le monde et le diable aiment le peindre de différentes couleurs pour le rendre plus attrayant, brillant. Mais la loi de Dieu nous dit réellement ce que le péché est. Notez le mot que Paul utilise ici pour décrire le péché. Il utilise le mot transgression au pluriel. Vous remarquez, c'est au pluriel. Et c'est le même mot que David a utilisé dans le psaume 51, qui est le psaume de pénitence. Au verset 1 du psaume 51, il dit « Efface mes transgressions ». Il porte l'idée, ce mot « transgression », porte l'idée de la rébellion, un caractère impétueux, une assurance d'autorité de soi dans le sens de revendicateur. Il pointe vers un cœur antagoniste, indisposé. Je veux être le premier, le centre de l'univers. Dieu sort de ma vie. Et en anglais, on voit le terme, il dit « get lost ». Quand tu dis à quelqu'un « get lost », ça veut dire « va te perdre, sort, efface, disparaît ». Je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas t'obéir. Je veux être maître de ma propre destinée. C'est ce qui se cache sous la laideur de ce mot transgression. Et le meilleur commentaire sur Galates est Romains. Et comme Galates, la loi est mise en surbrillance. Les buts spécifiques de la loi sont mis en évidence. En Romains 3, nous avons ces mots de l'apôtre Paul au verset 20, il nous est dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et en Romains 4, le verset 15, il nous dit « Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a non plus de transgression. » Et en Romains 5, 20, encore une pensée qui est similaire, qui se rapproche. « Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. » Luther et Calvin ont mentionné que la loi avait plusieurs fonctions, entre autres deux fonctions principales. La loi fonctionne comme un moyen préventif, mais aussi comme un moyen de provocation. Un moyen préventif. Vous savez certainement que lorsque vous roulez sur la route et que vous voyez un policier automatiquement, vos yeux se jettent un regard sur l'odomètre. C'est automatique. Si vous pensez que vous conduisez un peu trop vite, votre pied se soulève de la pédale un peu d'accélération. Donc, c'est préventif. Le policier et la loi servent comme un effet préventif. La loi fonctionne ainsi. Elle restreint le péché, mais il y a aussi cet élément provoquant ou cette fonction provocante. Luther dit « Cela produit une situation terrible, encore plus désespérante, et révèle à l'être humain leur péché. Elle expose leur péché, mais aussi elle provoque le péché. » Vous voyez, la loi de Dieu nous montre nos péchés, mais elle stimule aussi la rébellion dans notre cœur. Romains 7 nous aide ici. Paul nous donne, il décrit ce graphique de lui-même. Et voyons ce qu'il dit au verset 7 de Romains 7. « Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » Ainsi, la loi révèle le péché. Mais ensuite, il poursuit en disant qu'elle le provoque aussi, au verset 9. « Pour moi, toutefois, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie. » Il a repris vie soudainement. Il s'est réveillé par la loi. Il était endormi, mais cela a créé une montée de rébellion. Augustin, qui est un père de l'Église, dit de lui-même lorsqu'il était jeune garçon. Lui et son compagnon sont allés dans un champ sur une ferme et ont volé des poires. Ils ont secoué l'arbre et ont fait tomber une grande quantité de poires. Et ils en ont mangé quelques-unes et ils ont jeté les autres au pourceau au cochon. Et Augustin de dire « Mais pourquoi ai-je volé les poires ?» Eh bien, il dit que ce n'était pas parce que les poires étaient belles. Ce n'était pas parce que j'avais faim. Ce n'était pas en raison de la pression des pères, de ses compagnons. Quelquefois, les gens pêchent parce qu'ils veulent faire partie de la foule, de la gang. Mais il dit non. Ce n'était pas le sourire de mes amis. Mais il dit « J'ai volé. » Je les ai prises afin que je puisse voler. Il dit, je n'aimais rien dans cela excepté le fait de voler. Je savais que c'était mal. Mais le fait que c'était mal était attrayant, faisant appel à ma nature pécheresse. Fin de la citation pour Augustin. Vous êtes-vous déjà promené sur un chemin et avoir vu un panneau? Ne traversez pas. Et aussi le fait de dire, lorsque vous dites à un enfant, ne touche pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher. Le péché agit comme une loupe. Il nous aide à voir notre péché. Il nous aide à voir notre propre avidité et bonne volonté à pécher. Il expose et provoque. Ce qui nous amène à notre deuxième point, une épée meurtrière ou un cimetière. Ici, dans Galates 3, Paul fait résonner la trompette de la promesse et laisse savoir aux Galates que l'alliance avec Abraham a précédence à l'alliance faite avec Moïse. Mais cela ne signifie pas que l'alliance avec Moïse est en contradiction avec l'alliance avec Abraham. Paul veut que nous sachions que la loi et la promesse ne sont pas l'une contre l'autre. Elles ne sont pas ennemies. Notons ce qu'il dit au verset 21 de Galates 3. Alors qu'il poursuit son argument et cherche à répondre à la question « Pourquoi la loi? » La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Et il revient avec un négatif qui est assez fort. « Certes non, » qu'il dit. Nous pourrions traduire « d'aucune façon, certainement pas ». Elles ne sont pas ennemies, dit Paul. Elles ne sont pas en opposition. Non, en fait, les promesses et la loi s'élèvent l'une et l'autre. Elles sont sur la même équipe, mais elles ont différents buts, différents objets. Paul utilise sa loi pour préparer, Dieu utilise sa loi plutôt pour préparer son peuple pour la promesse de Christ. Il veut que nous nous voyions nous-mêmes dans la faillite d'Israël. Ils ne pouvaient pas garder la loi. Ils ont failli misérablement. Ils ne pouvaient pas se justifier eux-mêmes par la loi. Ils ne pouvaient pas donner la vie par la loi. Et dans le verset 21b, il nous est dit « S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. » Elle ne donne pas la vie, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas donner la vie. Et c'est ici pourquoi les Juifs étaient si mélangés et pourquoi tant sont aussi mélangés aujourd'hui. Ils cherchent à obtenir la vie en gardant la loi. C'est ce que les Juifs ont fait pour la plupart et c'est ce que les pharisiens ont fait. C'est ce qu'ont fait tant de moralistes aujourd'hui. Et ils ont probablement un texte des Écritures qui pourrait supporter le fait de garder la loi. Et pourquoi ils cherchent à garder la loi et gagner la vie éternelle? La loi dit « Fais ceci et tu vivras ». Et Galates 3:12, vous noterez ce que chaque juif avait dans son esprit et dans son cœur. « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Et le Juif pensait réellement qu'il pouvait garder la loi de Dieu. Et dans les livres des Juifs, les livres historiques des Juifs, la Mishnah, qui était le répertoire en quelque sorte, en anglais ils disent le « handbook », le livre dans lequel étaient rassemblées toutes les lois, là, les lois qu'ils avaient ajoutées, là, il y en a, je ne sais pas comment, 600 quelques, donc la Mishnah. C'était le livre juif, et cela disait en quelque sorte beaucoup de Torah, beaucoup de lois, beaucoup de vie. Alors, ils tiraient cela dans le sens que pour eux autres, appliquant cela, ça donnait la vie pour eux autres. Il pensait qu'il pouvait avoir la vie en gardant la loi. Mais Paul a dit que la loi ne donne pas, n'apporte pas la vie, elle donne la mort. La loi ne donnerait la vie seulement si vous la gardiez parfaitement. Mais personne ne la garde parfaitement. Ainsi, si vous ne la gardez pas parfaitement, vous êtes sous la sentence de la loi. Et quelle est la sentence, la pénalité, la punition de cette loi? C'est la mort. Encore, Paul, dans Galates 2:19, donne sa propre expérience. « En effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. » Et dans Romains 7, il étend sur cette expérience de la mort par la loi. Dans Romains 7, au verset 9, il dit « Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie et moi, je mourus. » Lorsque vous pensez à la loi de Dieu, pensez à une épée, une chambre mortuaire, aux funérailles, à une sentence de mort, à un cimetière. C'est quelque peu comme un peu comme la chimiothérapie. La chimiothérapie est utilisée pour traiter le cancer. Elle ne donne pas la vie. Elle agit comme un instrument de mort. Des éléments chimiques sont versés dans le corps pour détruire des tissus, des cellules en santé, aussi bien que des cellules cancéreuses. durant le cours du traitement, la chimio, fait que la personne va plus mal. Si vous avez des cellules cancéreuses, vous avez besoin de la chimio. Chimio ou chimio. Mais quelque chose doit mourir si vous êtes pour continuer à vivre. Et comme la chimio, la loi rend les choses pires. Elle expose le péché, elle amplifie, elle provoque. Elle dit que je suis pécheur, que je suis un pécheur, et elle me tue. Pourquoi la loi? Pourquoi Dieu a-t-il donné sa loi? Pourquoi tous ces coups de tonnerre et ces éclairs sur le mont Sinaï? Pourquoi cette terrible noirceur, ces ténèbres? Pourquoi a-t-il donné cette loi? Y a-t-il quelques bénéfices, quelques buts? Oui, il y en avait. Pensez à cette loupe, à cette épée meurtrière, à ce cimetière. Mais notre troisième point nous amène à une prison, à un directeur de prison. C'est ici que Paul est plus explicite. Il nous amène au tableau et dessine deux images. Pourquoi la loi? Pourquoi Dieu donne sa loi dans l'histoire de la rédemption? Au verset 23, Paul dit « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi. » Il y voit une prison, un gardien de prison. Le commentateur Derek Thomas dit concernant cela, « Aucune image ne pourrait décrire le fonctionnement de la loi que celle-ci. Paul envisage les Juifs spécialement au temps de la réception de la loi au Sinaï comme des prisonniers. La loi mosaïque les gardait enfermés sous clé. La loi me plaçait dans une cellule de prison. Dieu m'avait trouvé coupable, condamné. La loi ne me laissera pas m'échapper. » Eh bien, il y avait la grâce trouvée dans l'alliance mosaïque. Il y avait quand même la grâce. Il y avait les sacrifices sanglants. Il y avait un jour des expiations. Et il pointait vers Christ et l'âge de l'Évangile. Mais l'ancienne alliance mosaïque mettait l'emphase sur la loi, non pas sur la promesse. Et il y a un contraste que Paul a fait ici dans Galates 3 entre l'alliance d'Abraham, donnée à Abraham, et l'alliance mosaïque. Moïse disait « Fais ceci et tu mourras. » Abraham disait « Crois et tu vivras. » Alors, vous avez l'aspect de la loi qui disait « Fais ceci et tu vivras. » Et l'aspect de l'alliance avec Abraham, de la foi, qui disait « Crois et tu vivras. » Mais sous l'alliance de la loi, Israël a appris qu'il ne pouvait pas garder la loi. Ils ont appris que sans la grâce, il était impossible. Ils étaient condamnés à mourir. Et plusieurs, effectivement, sont morts, n'est-ce pas? Ils sont morts dans le désert. Ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. Elle n'a pas apporté la vie, elle a apporté la mort. Elle n'a pas apporté la liberté, elle a apporté l'esclavage. La nation dans son ensemble, ceci est l'histoire de la rédemption. La nation dans son ensemble est embarrée dans une cellule de prison, se retrouvant à regarder les barreaux enchaînés. Peu importe qu'ils essayaient aussi fort, ils ne pouvaient en échapper. Les Juifs sous l'ancienne alliance étaient en détention protectrice. Ils ressentaient toutes les restrictions de la législation mosaïque. Et vous aviez toutes ces nomenclatures, toutes ces fêtes, tous ces sacrifices qu'ils devaient observer. Et Paul rappelle ici aux Galates dans Galates 3. Rappelez-vous ce qu'il tentait de faire. Il tentait de retourner aux anciens temps du judaïsme, de se faire circoncire, de se placer eux-mêmes sous ces lois juives concernant la nourriture, tous ces rituels de l'Ancien Testament. Et Paul leur laisse savoir que vous retournez à ces lois et règlements de l'Ancien Testament. C'est retourner en prison. C'est pourquoi l'Épître aux Galates a été appelé l'Épître de la liberté. Ô Galates insensés, pourquoi la loi? Eh bien, elle donne plusieurs intentions. Elle agit comme une loupe. Elle fonctionne comme une loupe. Comme une épée, elle nous amène à un cimetière. Comme une prison, elle retient l'homme captif jusqu'à ce que la foi vienne où Christ est l'objet de la foi. Et quatrièmement, comme un enseignant sévère ou une gardienne d'enfants sévère. Les versets 23 et 24. L'apôtre Paul utilise un mot qui n'est utilisé que trois fois par l'apôtre Paul. Deux fois dans Galates 3 et une fois dans 1 Corinthiens 4. Et c'est le mot pédagogos. Pédagogos. En grec, certainement. Ce mot a donné précepteur pédagogue et qui donne la fonction d'enseigner, d'instruire. Et certains pensent que Paul a pris ce terme du monde gréco-romain de ce temps. Vous aviez, dans ce temps, il appelait ça des nannies, qui avaient des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Ils s'occupaient des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Et à partir de 6 ans, vous aviez ces pédagogues ou ces tuteurs, ces gardiens qui entreprenaient l'enfant et qui l'amenaient jusqu'à l'âge avancé, l'âge adulte. Et apparemment, ces pédagogues étaient grandement craints. Comme exemple à cela, avez-vous déjà eu, moi j'en ai déjà eu, des professeurs ou même des directeurs d'école qui étaient très sévères? Juste à le regarder, ça vous invitait à marcher droit. Et c'était vraiment, c'était pas de la dictature, mais on marchait serré. Ou même, avez-vous un exemple de celui où je prends l'information pour la prédication? Il disait qu'il y avait une grand-mère qui les gardait lorsque les parents étaient en voyage. Et la grand-mère avait le surnom de... s'appelait comme une grand-mère grizzly. Elle était quand même douce et affable, mais elle avait une poigne de fer. Alors... Quand les parents disaient bon ben c'est grand-mère qui va venir, alors les autres ils voyaient, alors quand les parents revenaient, ils étaient très très contents que leur père vienne, même si leur père était sévère, ils étaient très très contents que les parents reviennent à la maison. Donc vous avez certainement connu cela. Alors c'est quelque chose de semblable que Paul fait référence ici, dans lequel il utilise ce mot. Il porte le pédagogos, ce pédagogue, ce précepteur, porte cette sévérité, cette rigueur. La loi sous l'ancienne économie fonctionne comme un dur chef de corvée, un rigoureux disciplinaire. Elle ne vous donnait jamais de répit, elle ne vous souriait jamais lorsque vous faisiez quelque chose de mal. La loi pointait vers quelque chose de plus, vers quelque chose de réparateur, de curatif. Et notons ici la touche de la grâce au verset 5. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous ce dur chef de corvée. Mais voyez, quelque chose a merveilleusement changé sous l'Évangile, sous la Nouvelle Alliance. Nous jouissons des plus grands privilèges et bénédictions. Nous appartenons maintenant à la famille de Dieu. Nous avons un Père éternel gracieux, parce que en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Nous jouissons d'une liberté en tant que fils. Nous ne sommes plus traités comme de petits bébés par une rigoureuse gardienne sous la Nouvelle Alliance. Nous sommes comme des enfants qui grandissent, qui deviennent à maturité. Nous n'avons pas besoin de la supervision constante, de la sévérité, de la dureté de la loi cérémonielle civile. Lorsque les enfants désobéissaient à leurs parents de manière exaspérante, ils étaient lapidés à mort. Plusieurs, c'est plutôt sévère. Dieu n'est pas comme cela sous la Nouvelle Alliance. Il ne traite pas ses enfants comme cela. Oui, ce pédagogue était là pour nous protéger. Ce gardien rigoureux est encore ce gardien, mais combien plus maintenant jouissons-nous maintenant de notre relation avec Dieu, avec notre Père, dans une sorte d'amour gracieux, de soins et de supervision qu'il nous donne en tant que ses enfants. Pourquoi la loi? Eh bien, il y a plusieurs réponses à cette simple question. Si vous regardez à l'histoire de la rédemption, nous avons vu 4 analogies ou métaphores pour nous aider à comprendre pourquoi la loi. La loi fonctionne comme une loupe pour exposer et aggraver le péché. Elle fut donnée en raison des transgressions. Elle fonctionne comme une épée et nous met dans un cimetière. Par la loi, nous mourrons et perdons l'espoir de nous sauver nous-mêmes. La loi fonctionne comme un gardien de prison. Elle garde l'ancien Israël en détention protectrice et leur disait qu'ils n'étaient pas libres. Et finalement, la loi fonctionne comme une personne rigide sur la discipline. Maintenant, qu'est-ce que cela peut nous dire à nous? 3 applications pour nous aider à saisir et à comprendre. Cela devrait promouvoir de la gratitude et de la reconnaissance. Si je vous disais, si vous pouviez choisir un temps ou un siècle pour vivre, qu'est-ce que vous choisiriez? Voudriez-vous retourner à l'âge de pierre? Quelqu'un pourrait dire, je voudrais retourner au temps des charrettes et des chevaux. Qui voudrait y retourner? Nous apprécions, n'est-ce pas, ces temps modernes de l'automobile, des ordinateurs, toute cette technologie que nous avons. Nous apprécions le confort de nos arrière-grands-parents qu'ils ne pouvaient seulement que rêver à cela. Personne ne choisirait de retourner à l'ère des chevaux et de la charrette, où il n'y a pas de téléphone, aucune technologie. Nous sommes reconnaissants pour tous les bénéfices de la médecine et de la science moderne. Mes frères et sœurs, combien plus devrions-nous être plus encore reconnaissants lorsque nous pensons à l'histoire de la rédemption? Nous vivons à l'ère de l'Évangile, à l'ère de l'Église. Nous venons au mont Zion, non pas au mont Sinaï. Aucun chrétien ne voudrait retourner au temps de ces rituels, de ces cérémonies où chaque jour, vous devez tuer une chèvre, un agneau, sacrifier un pigeon. C'est tous ces jours de fête, tous ces rituels qu'il devait faire. Si nous retournions vivre sous l'ancienne alliance de Moïse, nous verrions que nous sommes dans une prison. Nous serions réveillés au matin par une super gardienne, un gardien strict. Mais parce que Christ est venu, parce que Christ est mort, que Christ est ressuscité, Nous vivons à l'âge de l'Évangile et nous jouissons de merveilleux bénéfices et privilèges, et même notre relation avec la loi de Dieu a changé. C'est appelé la loi de liberté par Jacques. Je ne regarde pas la loi comme un gardien strict. Maintenant, j'aime le joug. Je peux le porter à tout le moins de manière évangélique. Je suis maintenant obéissant, pratiquant de cette loi en raison de la liberté, de la réalité dynamique de la nouvelle alliance. Nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes des fils de Dieu. Ainsi, nous devons être reconnaissants, frères et sœurs, dans l'âge où nous vivons ou dans les temps dans lesquels nous vivons. Deuxième point d'application, cela devrait nous encourager et de respecter et d'honorer la loi de Dieu. L'apôtre Paul ne nous dit pas toutes ces choses afin que nous froncions les sourcils et que nous méprisions la loi de Dieu. Non, il tire parti de quelques grands et glorieux buts de cette loi qui ont servi l'histoire du salut. Mais aussi, il trouve écho dans notre propre expérience personnelle. N'êtes-vous pas venu à connaître votre péché par la loi? Dans Romains 7, Paul y décrit sa propre expérience personnelle. C'est ordinairement ainsi que les hommes sont amenés à Christ. Sous la prédication de la loi, le péché est exposé. Nous le voyons pour ce qu'il est. Une transgression, une violation de la loi de Dieu. Nous nous voyons nous-mêmes pour ce que nous sommes dans ce miroir de sa sainte loi. Il nous dit, Paul, au verset 24, « Misérable homme que je suis ». La loi a un tranchant acéré, elle tue. Nous mourons à la loi par la loi. Nous réalisons qu'il n'y a aucune manière que je puisse faire et vivre. Pas de vie éternelle. Cela ne peut venir par notre propre justification ou par une justification par les œuvres, mais par une justification par la foi. La foi m'enferme dans une prison et me fait sentir ma captivité. Qui me délivrera? Seulement Jésus-Christ peut le faire, lui seul. Vous ne pouvez vous sauver vous-même. Finalement, en termes d'application, alors que nous considérons la loi et ses buts, cela nous amènera à faire confiance à Jésus-Christ et qu'il soit encore plus précieux. Pensez à si Christ n'était pas venu. Quel désespoir, quel état désespéré. Nous vivons avec un sens constant et terrible de culpabilité, souci sur souci, faillite sur faillite. Nous nous levons chaque matin, ressentant la culpabilité de nos péchés, regardant dans la face de la bonne loi de Dieu, et tout ce que nous pouvons voir et entendre, ce sont des mots de condamnation. Nous nous éveillons assis dans une cellule de prison. Nous entendons la voix dure, répressive de ce maître d'école, sentant le fouet et la verge, sans miséricorde chaque jour. Mais Christ est venu pour nous délivrer, pour nous rendre libres. Christ est venu, l'âge de l'Évangile. Nous sommes fils de Dieu. Nous avons un privilège digne d'estime, un privilège racheté par le sang. Nous avons le Saint-Esprit. Frères et sœurs, si la loi pouvait être utilisée pour ainsi dire, remuer, exciter, réveiller le péché. Pensez à ce que peut faire l'Évangile pour vraiment éveiller en nous la sainteté. Nous pouvons vivre la vie triomphante de la foi. Quelle opportunité nous avons chaque jour du Seigneur d'entendre l'Évangile. Et la parole nous enjoint de ne pas gâcher ce moment, de ne pas faire de procrastination. La parole nous dit de croire en Jésus-Christ, de saisir ces merveilleuses réalités de l'Évangile. Dieu justifie l'impie. Et la seule raison pourquoi un Dieu saint peut justifier une personne impie est parce que le Christ Jésus a vécu cette vie que personne de nous ne peut vivre et est mort pour nous qui méritions de mourir. L'Évangile ne dit pas « enfuis-toi », l'Évangile dit « viens à Dieu ». Non pas pour être puni, mais pour être récompensé, béni bien au-delà de ce que vous pourriez faire. Viens à Christ dans ton incapacité, dans ton indignité, dans ton inutilité, dans ton impotence. Et vous trouverez qu'il est tout ce qu'il a promis d'être pour le pauvre pécheur en besoin. Et vous pouvez retourner à la maison justifié. C'est le seul moyen de justification. Christ et Christ seul. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour les moyens de grâce que tu nous donnes, Seigneur Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce de regarder à Jésus, l'auteur de notre foi, qui est venu vers nous, Seigneur, et qui nous a accordé le salut, sans lequel personne, Seigneur, ne pourrait entrer au ciel. Seigneur, nous te bénissons pour cette journée, Seigneur, nous te prions de bénir cette parole, de nous aider, Seigneur, à l'appliquer dans notre vie, Seigneur, et de ce que, par le Saint-Esprit, Seigneur, regarder à ta loi, Seigneur, devrait être en quelque chose de facile pour nous, Seigneur, d'abordable. Alors, Seigneur, bénis cette journée, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.